Bonjour et bienvenue dans On le Noir, l'émission du polar la plus forte.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et voilà, dans cette émission, un petit sommaire, ben ça va être tout simple, pas d'interview, pas d'intervention. Simplement, nous allons vous parler de quelques romans qui ont particulièrement retenu notre attention ces dernières semaines, romans parus il y a quelques mois ou beaucoup plus récemment. Je te laisse démarrer, non pas les hostilités, mais démarrer nos coups de cœur.
Donc oui, avec un roman de Gordon Ferris qui s'appelle « Les adieux de Brody », qui est paru dans la collection « Cadre noir au seuil », qui est traduit par Hubert Thézenas. C'est le quatrième tome des enquêtes de Douglas Brody, et c'est aussi le dernier, le titre nous l'indique d'ailleurs, « Les adieux de Brody ». Petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Douglas Brody, c'est un héros qui a été créé par Gordon Ferris. Il est écossais de Kilmarnock, tout comme son auteur. Kilmarnock, c'est un petit patelin très joli par ailleurs, au sud de Glasgow. Après avoir été flic, donc, Brody, il devient militaire pendant la guerre de 39-45. Il finira major. Sa connaissance de la langue allemande le fera assister aux divers interrogatoires et procès contre les nazis. Il en reviendra assez brisé. Et à son retour, donc, en Écosse, lassé de tout, il va devenir journaliste. Mais, bon, un journaliste, ça enquête, et lui, il ne peut s'empêcher d'enquêter. Il sera souvent aidé par sa douce amie, l'avocat pénaliste Samantha Campbell.
Tu peux même dire avocate, hein.
L'avocate, oui, d'ailleurs.
Franchement.
L'avocate pénaliste Samantha Campbell. Ils sont tous les deux très friands de whisky. Bon, évidemment, quand tu es né à Kilmarnock, la patrie de Johnny Walker, c'est normal. Le roman est bel et bien Les adieux de Brody, car il commence par son enterrement.
Bon, tu dévoiles rien, donc.
Bon, bien sûr, on l'a lu, on l'a vu dans un James Bond, on l'a lu dans un San Antonio ou dans bien d'autres. On sait que l'enterrement est un faux. Mais pour tous les autres protagonistes du roman, Brody est bel et bien mort. Dans le fond de sa prison, tel Edmond Dantès, Brody simule sa mort pour s'évader et se venger de ceux qui l'ont fait enfermer. Ils l'ont fait enfermer pour le meurtre et l'enlèvement du banquier Fraser Gibson, qui est le président de l'une des plus importantes bandes d'Écosse, et pas du tout un fabricant de guitare électrique. Bizarrement, un mort, donc Brody qui est mort, s'enquête beaucoup plus facilement qu'un vivant, même s'il doit faire preuve de plus de discrétion, bien évidemment.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'enterre en général. Hein.
Exactement. Il va habiter sur le voilier d'un ami, se laisser pousser la barbe, et même troquer son whisky favori pour du rhum, marin jusqu'au bout du déguisement.
Régossé, certes, quand même.
Certes. On est dans la période d'après-guerre. Le plan Marshall est presque prêt. Alors, un banquier assassiné, ça fait désordre. Les Américains, ils vont peut-être pas prêter de l'argent à des gens qui assassinent leur banquier. Et du coup, les services secrets vont intervenir, vont s'en mêler, et Brody sera bien évidemment de la partie. Gordon Ferris sait toujours très bien y faire. Son polar passe du simple roman policier d'enquête à l'anglaise, enfin plutôt à l'écossaise, au roman d'espionnage et même au thriller, avec les 150 dernières pages qui frillent vraiment. On est accroché aux pages. Brody se transforme même presque en Bruce Willis dans une poursuite en voiture entre une petite Maurice Ten et une grosse Wesley. Bon, c'est la voiture de l'époque, fin des années 40.
Oui, c'est bon de le préciser parce que...
oui, parce que maintenant, des Maurice, il y en a toujours, mais... Et donc, cette poursuite, évidemment, sur la route de Kilmarnock. Une poursuite digne des meilleurs films d'action. Pour compléter le tableau de son roman, Gordon Ferris rajoute toujours un petit côté social à son intrigue. La guerre n'a pas suffi à faire éclater les classes sociales. Les banquiers restent arrogants et les petites gens ont toujours du mal à joindre les deux bouts. Pour les uns, le single malt, pour les autres, le torboyau et un blended éventuellement les bons jours. Gordon Ferris aime vraiment bien son héros, même s'il l'a fait mourir au début. Et pourtant, son héros est un peu soupolé, il monte vite au créneau. Mais pour le sauver, il y a toujours quelques notes d'humour. À un moment, une petite citation, il dit « Le contraste entre les sites industriels enfumés de Govan et les artères verdoyantes de White Creek, donc évidemment, vous avez compris, dans les quartiers chics, aurait suffi à rendre Churchill socialiste. » Je pense qu'il en aurait fallu un peu
plus. Il en aurait fallu beaucoup plus, je pense, oui.
Si Brody meurt au début du roman, je vous l'ai dit, va-t-il mourir aussi à la fin, puisque ce roman s'appelle « Les adieux de Brody » Eh bien, vous le saurez en le lisant, ce roman donc de Gordon Ferris, paru au cadre noir de Seuil.
C'est bien, tu n'as pas, selon une expression très à la mode, spoilé.
Ah ben, je ne peux même pas.
L'issue de ce roman. C'est le moment pour nous d'écouter un petit peu de musique. Que nous proposes-tu ?
Un petit peu de musique. Donc, je vais vous proposer This Foolish Things, un standard écrit par deux Anglais, Eric Mashwitz pour le texte, Jack Strachey pour la musique.
La prochaine fois, il faudra vraiment prendre de la musique française, je pense.
Oui, il en existe de très nombreuses versions, dont une excellente par Eddie Lewis et Michel Petrucciani. Mais on a choisi la version de Billie Holiday, probablement l'une des plus belles. Et dans le roman de Gordon Ferris, il parle de cette chanson, car il l'entend massacrer carrément dans un pub de Glasgow lors d'une rencontre avec un témoin. Donc, Billie Holiday, Wishful Things.
Lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings, these foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near to me. The scent of smoldering leaves, the wail of steamers, two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you cling. These foolish things remind me of you.
On va passer à d'autres choses folles. Le roman avec lequel je vais terminer cette première partie d'émission est un roman qui a été initialement publié en Argentine en 2001. Donc on peut penser que son auteur l'a écrit à l'aube des années 2000. Brulo, certainement trop réaliste de la société de ce pays, il va disparaître et ne sera republié donc qu'en 2013. Traduit en français dans la foulée, par les éditions de La Dernière Goutte, excellent travail d'ailleurs, et cette traduction est de Nelly Guichard. On peut avoir la chance maintenant, en 2017, de lire ce roman en poche, puisqu'il vient d'être réédité chez Folio Policier. Entre hommes c'est le titre du roman, et l'auteur en est German Maggiore. Buenos Aires, l'heure actuelle, en fait donc, encore une fois, fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Pour vous mettre dans l'ambiance, les titres des quatre parties. Délire partagé, les vices publics, les vices privés, troisième partie, la dernière et quatrième partie, embranchement pour l'enfer. Au début du roman, on a trois hommes d'un côté, deux travestis, une pute de l'autre, une orgie et la pute qui défunte d'une overdose en plein milieu. Le tout est filmé à l'insu de ces hommes qui sont trois caciques du pouvoir qui s'est donc évidemment à cacher. L'histoire hallucinée, hallucinante, peut commencer. Évidemment, la hiérarchie sociale doit être respectée. Les riches doivent être protégés par une police corrompue. Toute cette histoire doit être cachée. Le plus sûr moyen, c'est que tous les témoins directs ou indirects soient éliminés. De toute façon, en gros, ce sont des macs, des putes, des travestis, des petits trafiquants. En gros, la lie de la société. Bref, une faune d'indésirables dont l'existence ne compte pas. Comme la citation d'Elroy en début de ce livre l'explique bien, il est impossible de perdre ce que l'on n'a jamais possédé, y compris la vie. D'ailleurs, symbole très important, dans ce roman, la plupart des personnages, à part ceux qui sont du mauvais côté de la force, c'est le cas de le dire, la plupart de ces personnages ne sont pas identifiés par leur nom, mais plutôt par des surnoms. Il est plus facile d'assassiner, d'éliminer celui qu'on ne peut pas nommer. Au centre de l'histoire, on va avoir donc deux flics, chargés par leurs supérieurs, les supérieurs pourris jusqu'à la moelle, de récupérer coûte que coûte la bande enregistrée, ce fameux film qui pourrait compromettre les édiles. Le premier policier s'appelle Almada, un taré complet, qui se récite constamment les textes de loi ainsi que des chapelets en une sorte de récit incantatoire. Et puis, l'autre policier, Garmendia, surnommé le monstre. Lui, il est déjà flic sous la dictature, toujours tortionnaire, homophobe, vraiment homophobe, il aime casser, on va dire plutôt massacrer du PD. Mais il faut bien dire qu'il n'est pas raciste, son sadisme n'a pas de limite, et évidemment en toute impunité. En face, le récit passe à la vitesse de la lumière pour évoquer une bande de camis qui erre à la recherche de fric et qui donc projette plus ou moins un braquage, qui l'envisage. Et puis, il y a les maîtres chanteurs successifs, ceux qui cachent plus ou moins la bande, jusqu'aux victimes collatérales qui ont juste la malchance de croiser l'un de ces univers. Les deux côtés du manche, pourrait-on dire. Ces deux côtés unis par le crime, la perversité, la violence. On est vite happé ici par un rythme complètement déjanté de l'histoire, complètement voulu, complètement assumé, au point de ne plus se préoccuper vraiment de l'intrigue, proprement dite. Poursuivre un court moment vraiment le plus souvent, un personnage qui va droit dans le mur, qui explose en vol, ces personnages sont en fait de beaux pauvres pantins, je cite, qui sont parachutés dans la dimension frénétique où les décisions se prennent sur le fil, où la distance entre deux points séparés par l'infini se réduit à zéro. Je vais pas dire que
mathématiquement c'est compliqué, mais
oui, mais littérairement et intellectuellement très juste. Je ne vais pas vous le dire, lire ce livre peut se révéler quand même une épreuve. Et par cela même, c'est un excellent roman, qui vous fiche un coup de poing dans l'estomac et quelques étincelles dans le cerveau. C'est aussi une errance, un long déambulatoire expiatoire dans les quartiers les plus pauvres de Buenos Aires. De Villa Miserias, en bidonville, les Villa Miseria, c'est vraiment les quartiers les plus déshérités de la ville. On va aussi passer de bar à pute jusqu'aux dans les dépotoirs, les décharges, dans des ruines industrielles ou des ruines tout court. On est là, moins de 20 ans après la fin de la dictature, des dictatures, fin de la dictature de Pinochet, je rappelle, 1983, et ce pays a plongé tout de suite dans l'hypercapitalisme, les tenants des pouvoirs n'ayant évidemment pas changé. Je vous avais parlé dans une précédente émission d'un autre roman, Vulnérable, de Richard Kroviec, aux éditions Tusitala. Entre hommes, il est dans la même catégorie, des romans qui dérangent, qui ébranlent, mais surtout, évidemment, qui émeuvent. Livre excellemment bien écrit, excellemment bien traduit par Nelly Guichert, bref, une pépite. Donc évidemment, vous pouvez l'acheter en poche, mais soutenez les éditions La Dernière Goutte en l'achetant en grand format. Ça vaut vraiment le coup et ça vaut le coup de soutenir ces éditions. Je vais terminer par un extrait du roman qui vous présente le très charmant personnage du flic Guermandia, le monstre. Alors, il est surnommé comme ça parce qu'il a une partie du visage qui a été brûlée et évidemment, sale cicatrice plus ou moins métaphorique sur la face. Donc, extrait. La route avait été longue. Ça lui avait pris des années à trimer au bas de l'échelle, dans des commissariats abjects où on le baladait d'un côté à l'autre, en l'obligeant à se coltiner les tâches les plus dégradantes. Promener la chienne à moitié crevée de la maîtresse du commissaire, cuisiner pour tout le service, préparer le maté de l'officier principal, poireauter 10 heures dans un tribunal pour être reçu comme la dernière des merdes par un sous-fifre qui le prenait de haut jusqu'à le rendre dingue. Des années difficiles qui, par chance, étaient désormais loin derrière. Pendant la dernière dictature, et grâce à son extrême cruauté, Guermandia avait rapidement grimpé les échelons parmi les sous-officiers. Le monstre qui, à cette époque, répondait au nom de guerre de Marcos, s'était forgé une aura de respect, une aura qui en imposait même aux officiers. Ça avait été l'heure de la revanche, l'heure de faire payer, une à une, les humiliations de ses supérieurs, de déverser toute la haine et le mépris accumulés. Puis, l'heure était venue d'en récolter les fruits. Les postes faciles, les horaires flexibles, l'alcool et la drogue qui le maintenaient à la fois anesthésié et sur ses gardes, qui l'aidaient à apaiser ses flashs de terreur, les pièges que son esprit lui tendait nuit après nuit. Sa rage s'était atténuée. Maintenant, il le faisait par amour de métier. Je vous laisse imaginer tout ce que ce petit mot « le » implique de violence et de terreur derrière. Voilà, donc je rappelle, Entre hommes, German Maturi, Folio policier, ou aux éditions La Dernière Goutte, traduit par Nelly Guercher.
On se retrouve après les informations.